la semaine. De 7h à 9h, la boîte à pain Café Napoli vous présente le Continental, l'émission du matin de CKRL. Un déjeuner en forme de buffet formatif et culturel, porté par les rythmes tonifiants de la meilleure musique urbaine francophone, de l'inédit et de la fraîcheur, comme à la boîte à pain Café Napoli. La boîte à pain Café Napoli, c'est près de 40 variétés de pain artisanal, un choix de salades, sandwichs et pizzas cuites au four à bois, ainsi que des produits uniques. Sans oublier notre gamme de desserts pour tous les palais, le tout pour apporter ou manger sur place. La boîte à pain Café Napoli, 396 3e Avenue et 289 Saint-Joseph-Est, 88-977-75-71.
C'est KRL 89.1.
But anyway, what I'm trying to tell you folks is, here we are.
Turn up the sound and push up the master. Music and slaughter, then call disaster. Chaos to set the whole place on fire.
Cultive tes goûts.
Bonjour à tous, ici Guillaume Lafleur sur les ondes de CKRL. Vous écoutez Au 7e ciel, regard sur le cinéma, une émission entièrement consacrée au cinéma, comme son titre l'indique. Et cette semaine, je vais essayer de vous entretenir, je vais prendre la peine de vous entretenir de l'actualité cinématographique la plus brûlante, c'est-à-dire pas nécessairement celle qui circule un peu partout sur les écrans ces semaines-ci, mais celle qui me semble la plus stimulante à un niveau artistique et tient compte à la fois des avancées cinématographiques significatives des dernières années à plusieurs niveaux, au niveau de la diffusion, etc. Mais également, simplement, au niveau esthétique, je vais, en bref, vous parler des films qui m'ont le plus frappé ces derniers temps. Et donc, deux films seront abordés aujourd'hui plus précisément, soit en premier lieu Into the Abyss, un film que le réalisateur allemand Werner Herzog, qui vit aux États-Unis depuis de nombreuses années, a réalisé au cours des derniers mois. C'est un film qui se concentre, un film documentaire, comme une bonne partie de l'œuvre d'Herzog depuis au moins une quinzaine, voire une vingtaine d'années. Il avait même évidemment réalisé des documentaires auparavant, mais en particulier ces années-ci, et même depuis deux décennies, une grande part de son travail se concentre sur cette forme cinématographique. Mais aussi, Into the Abyss est un film réellement américain. C'est pour ça que je disais que Herzog est établi aux États-Unis depuis longtemps. C'est un fait qui a son importance lorsqu'on voit ce film Into the Abyss, qui se concentre sur la peine de mort et en particulier sur le destin singulier d'un condamné à mort au Texas. Un film qui a été fait ces derniers mois, qui est assez bouleversant, présenté au Festival de Toronto en première il y a quelques semaines à peine. L'autre film, c'est tout à fait autre chose. Là, on est dans la fiction pure jusqu'à un certain point, même si c'est une fiction qui s'abreuve de la réalité, qui est finement documentée et qui a aussi une portée historique. C'est le film La Polonie du souvenir de la maison close du cinéaste français Bertrand Bornello. Dans ce cas-ci, on pourrait dire français et pratiquement québécois d'adoption, puisque depuis maintenant plusieurs années, un peu comme Herzog, et c'est peut-être le principal lien biographique qui les unit, du moins pour ces deux films dont je vais parler aujourd'hui, leurs deux nouveaux films. Donc Bornello vit principalement entre Montréal et Paris, donc encore là une distance, je dirais, avec la cinématographie à laquelle, en principe, la Polonide est attachée, puisqu'il s'agit d'une production française. Mais, comme toujours dans le cinéma de Bonello, il y a un glacis, il y a une sorte de mise à distance avec les grands courants, les tendances, les modes que l'on voit surgir de façon très fréquente dans les productions normatives françaises. Donc, La Polonide, Souvenir de la Maison Close, un film qui se passe principalement dans un bordel à Paris au tournant du 20e siècle. C'est le programme que je vous propose aujourd'hui.
Thank you. dans l'amour, tous les cris sont insensés. Quelle force de gémir, viens pas arrêter nos pas. Qu'est-ce qu'une vie intégrale sans pitié pour le cheval?
Guillaume Lafleur sur les ondes de CKRL, vous écoutez au 7e ciel, regard sur le cinéma, un petit problème technique qui fait en sorte que je reviens plus rapidement en ondes que je le laisse compter. J'essaie de vous faire entendre un extrait, mais peu importe en fait, un extrait d'un film de Werner Herzog qui va m'occuper pour une partie de cette émission qui s'appelle Into the Abyss. Into the Abyss, c'est un film qu'Herzog a réalisé au cours des derniers mois, et qui met en scène principalement un condamné à mort texan qui a été exécuté il y a quelques temps. C'est tout récent. Et le film commence avec le réalisateur lui-même. On sait que Werner Herzog aime à se présenter dans ses films, à intervenir dans ses films, et c'est même, disons, presque devenu une sorte de running gag. C'est comme si on pouvait... émettre l'idée que Werner Herzog s'est inventé un personnage à part entière de cinéma qui intervient dans ses documentaires et qui a une certaine attitude, une certaine dégaine tout à fait travaillée qu'il est possible de reproduire à l'envie. Je prends pour exemple le fait que même Werner Herzog, tel qu'il intervient dans ses documentaires, est un peu remis en scène, parodié dans des contextes divers, mais en particulier dans le cadre de films d'animation, comme si réellement il s'agissait d'une effigie, d'une sorte d'esquisse. Facile à reproduire. Entre autres, la voix d'Herzog est reproduite dans un épisode récent des Simpsons. Mais tout ça pour dire que lorsque l'on voit, et ça va être peut-être une des lignes directrices qui va animer cette émission, lorsqu'on voit apparaître Werner Herzog dans son nouveau film Into the Abyss, on a réellement l'impression qu'il est en train de proposer une forme de mise à distance du sujet qu'il nous offre et qui est pour le moins brûlant, pour le moins confrontant, frontal. Et le mot est juste d'ailleurs parce que le premier plan d'Into the Abyss, ou pratiquement le premier plan qui frappe le spectateur, c'est un plan où l'on voit ce condamné à mort assez jeune, fin vingtaine plutôt, que Herzog rencontre. Il est derrière une vitre, dans un habit qui ressemble à un habit de comment dire, un habit de soudure, ou en tout cas il est tellement protégé en sarrau avec une sorte de vestimentation qui laisse entendre une forme de la nécessité qu'il porte cet uniforme parce que il y a des risques qu'il court. En fait, on a l'impression que c'est pas un habit de prisonnier qu'il porte, mais un habit de protection, un habit de protection à la fois pour soi et pour les autres, qui est renforcé par cette baie vitrée qui l'oppose au réalisateur finalement. Et au moment donc où ce plan est tourné et où apparaît le condamné à mort, c'est crucial en fait, puisqu'il s'agit du moment où plus ou moins le décompte est vraiment lancé. En fait, c'est la dernière semaine avant la condamnation, avant l'exécution, ni plus ni moins. Et c'est à ce moment que Herzog va le voir, le film en tout cas. On suppose qu'il y a eu des rencontres préliminaires, mais le film s'amorce comme ça. Et quand même, de la manière dont Herzog s'adresse à lui, on peut facilement déduire que le condamné à mort n'a jamais rencontré le cinéaste auparavant et que toute une démarche de recherche et de rencontre a été faite en amont, que l'on verra par la suite dans le film. Et stratégiquement, quand même, Werner Herzog, en tant que cinéaste, avec son point de vue particulier qu'il va énoncé, décliné tout au long du film, pose un premier jalon dès ce plan, où il dit au condamné à mort que, à la fois dans un anglais donc marqué de son accent allemand qui est tout à fait caractéristique et qui facilite, si on veut, les parodies et les reproductions que j'ai décrites tout à l'heure. Donc Herzog dit au condamné à mort tout simplement qu'il compatit pour sa situation, qu'il est tout à fait contre la loi qui implique son exécution. La loi texane qui implique son exécution, et d'autre part, il est tout à fait libre de ne pas avoir beaucoup de sympathie pour lui. Et c'est dire comment, de cette manière, le point de vue du cinéaste colore l'ensemble du film dès le début, et d'une certaine façon, je pourrais ajouter que cette approche documentaire dessine une forme d'éthique, et ça peut paraître particulier de parler du cinéma d'Herzog en termes de cinéma qui est porté en premier lieu par une éthique, mais pourtant c'est peut-être l'occasion de remettre les choses en place par rapport au film qu'il a fait auparavant, parce qu'Into the Abyss montre à quel point les idées de ce cinéaste-là sont claires et qu'il n'est pas en train de jouer sur des effets de falsification, de manipulation du spectateur. Au contraire, son point de vue, la thèse qui l'anime et qu'il va tenter d'explorer et d'expliciter tout au long de son film, il énonce d'emblée, sans phare, avec une caméra aussi qui, d'une certaine façon, est en phase avec cette manière de faire. Certains journalistes ont pu dire que Into the Abyss était le résultat d'un cinéaste qui a très peu de moyens pour faire ses films. Moi, je remettrais ça en cause. Je pense pas que en un an et demi, après avoir pu tourner notamment deux films, dont l'un avec Nicolas Cage et le suivant avec Willem Dafoe, deux films réalisés dans des formes de production qui correspondent ni plus ni moins aux formes quasi normatives du cinéma hollywoodien, du moins soutenues par des réalisateurs chevronnés qui permettent à Herzog de se maintenir dans un système de production extrêmement dur. Ce faisant, Herzog a beau jeu de dire qu'il réussit à réaliser des films dans ce système avec deux fois moins d'argent que la plupart des productions. Donc, il y a toujours l'argument financier là, qui permet à un cinéaste comme lui de maintenir le contrôle, la maîtrise sur ses vues sans être dépassé par le cadre industriel dans lequel le film est fait. Donc, Into the Abyss, c'est un film qui est extrêmement léger, qui n'a rien à voir donc avec les productions précédentes, entre autres donc le film Bad Lieutenant avec Nicolas Cage qui était réalisé en Nouvelle-Orléans. Donc, limite de moyens, très peu de moyens, caméra limite télévisuelle, je dirais presque une caméra de mini DV, donc c'est même pas une caméra HD de haut niveau qui permettrait de créer un effet cinéma, ne serait-ce qu'un peu. Au contraire, il y a une volonté d'aller davantage vers la vidéo, vers le reportage filmé, avec une liberté de ton qui finalement, à mon avis, je vais terminer là-dessus pour l'instant, me semble tout à fait en phase avec l'approche à la fois frontale, c'est-à-dire assez violente du cinéaste, mais aussi extrêmement nette sur les idées qu'il veut mettre de l'avant. Et cette simplicité de moyens est tout à fait légitime compte tenu de l'éthique qui anime ce film et son sujet très difficile, qui, s'il était marqué par un renfort d'effets techniques et visuels époustouflants, et on sait à quel point Herzog a pu être un esthète et un maître de l'esbrouffe, je dirais de l'esbrouffe, c'est un peu dur, c'est pas exactement ce que je veux dire, mais un maître de la force énonciatrice cinématographique, tout à coup qu'il décide de tourner avec cette simplicité de moyens, c'est une manière sans doute pour lui d'être en phase avec ce vœu qu'il énonce dès le premier plan, c'est-à-dire je veux dire les choses telles qu'elles sont et les choses telles qu'elles sont dans le cadre d'une vie qui bientôt va se terminer pour un condamné à mort, ben, c'est tout simplement prendre le temps de parler avec quelques témoins dont ce condamné, quelques proches, essayer de comprendre aussi plus largement, politiquement, comment cet engrenage qui mène à une exécution capitale et à une peine capitale est possible. Et la manière de le faire, c'est simplement de savoir faire parler les gens et de se contenter d'énoncer un certain nombre de faits également qui pourront mettre en œuvre la démonstration que le cinéaste a envie de faire et qui est assez simple, qui s'est en quelques phrases énoncée dès les premiers plans du film.
On se tait tout à fait, le sang au coule des doigts. rouge rotofaki. Carton rouge rotofaki.
Guillaume Lafleur sur les ondes de CKRL, vous écoutez au 7ème ciel, regard sur le cinéma, fin de la première demi-heure de l'émission. Cette première demi-heure qui est consacrée à un film qui m'a assez marqué dans les dernières semaines et qui s'appelle Into the Abyss de Werner Herzog. Donc je m'en suis tenu dans les 10 dernières minutes avant l'intermède musical à décrire un peu le premier plan et le contexte dans lequel le film d'Herzog déploie sa toile. Et si on veut, je vais aller plus avant en essayant de mieux décrire comment Werner Herzog s'y prend pour défendre un certain nombre de vues qu'il a concernant la peine capitale au long de son film, tout en restant à l'écoute des divers intervenants, des divers points de vue qu'il tient à capter de sa petite caméra. C'est un film donc extrêmement léger qui prend un peu le contre-pied, si on veut, des moyens avec lesquels Herzog a réalisé ses derniers films. Il faut avoir en tête qu'il a fait 2 films dans les derniers mois, ou disons les 2 dernières années, dans un cadre tout à fait hollywoodien, un film réalisé avec entre autres l'acteur Willem Dafoe et juste avant un film qui avait eu droit à une sortie tout à fait normale, disons commerciale, typique du cinéma d'exploitation dans tous les complexes de cinéma nord-américain, un film qui s'appelle Bal du Lieutenant avec Eva Mendes et Nicolas Cage. Des films par ailleurs qui renouaient d'une certaine façon avec une veine assez ambitieuse du cinéma d'Herzog en termes de fiction, ce qu'on avait assez perdu de vue depuis la fin des années 80, je dirais même un peu avant, en fait depuis Fitzcarraldo, peu à peu. Le cinéma d'Herzog s'était un peu concentré, sans dire ramifié, peut-être qu'à certains moments on a eu l'impression qu'il y avait quelque chose comme une veine tarie, hein, du moins une veine épique qui avait laissé place à une approche davantage frontale de la réalité, beaucoup moins marquée par la mythologie, la volonté de reconstruire une sorte de réalité historique perdue qui en fait énonçait un grand fantasme romantique du cinéaste avec un souci de la mise en danger qui fait le pont finalement entre ses fictions et ses documentaires. Pour les fictions, je pense évidemment aux films les plus emblématiques, par exemple La Guérée, La Colère de Dieu au début des années 70, ou encore Fitzcarraldo avec Klaus Kinski. Il y a d'autres très grands films à cette époque-là en termes de fiction. Pourtant, la mise en danger n'a jamais quitté, comme je le dis, le cinéma d'Herzog, et on peut dire que Into the Abyss, c'est une nouvelle manière de décliner cette façon de faire du cinéma qui a toujours animé l'œuvre d'Herzog et qui fait toute sa cohérence. Entre autres, l'idée même d'aller rencontrer un condamné à mort quelques jours avant son exécution est une chose. Commencer son film avec ça est comme une sorte de manifeste ou de passage à l'acte immédiat qui confronte le spectateur aux ambitions réelles et aux vues les plus franches que le cinéaste a avec son sujet. Et dans la suite, on peut dire qu'il va pas de main morte et il y a certains aspects de son film qui prennent un sens vraiment intéressant, bon, par rapport au type de documentaires ou de documents qui ont pu être faits sur ce genre de sujet un peu spectaculaire qui rappelle finalement des thèmes à sensation. Dans le meilleur des cas, ça rappelle ce que Truman Capote a pu faire avec De sang-froid ou In Cold Blood au cours des années 60, qui était évidemment le grand texte que Capote a écrit en s'inspirant de la situation d'un condamné à mort, qui est ni plus ni moins qu'une étude à la fois littéraire et journalistique. Herzog va dans ce sens-là, mais essaie de proposer une manière cinématographique de faire advenir l'extrême, à la fois l'extrême violence, essayer de reproduire l'extrême violence qui a mené à finalement cette condamnation, si on veut, et à la fois la grande humanité qui, malgré tout, dans une grande ambiguïté aussi qui passionne quelqu'un comme Herzog, qui malgré tout traverse évidemment les meurtriers, les criminels qu'il rencontre, parce qu'en fait, il y a principalement 2 jeunes complices qui ont réalisé un meurtre absolument gratuit, type de meurtre qui se rapproche de beaucoup de fiction, je dirais, qu'on a pu voir, et même de la littérature depuis le 19e siècle, mais beaucoup de fiction qu'on a pu voir se faire, qui sont marquées par le cynisme, une sorte d'absence de sens chez les meurtriers, donc absence de motivation, perte de sens, perte de repère entre ce qui est le bien et le mal. C'est un peu le thème avec lequel ce film travaille. Et les documents qu'il utilise, ben on peut dire que ce type de documents-là, on aurait pu les voir dans des reportages télévisés qui s'intéressent à ce type de sujet, à sensations extrêmement violentes, extrêmes, qui forcément attirent l'attention dans une manière de faire de l'audiovisuel qui se rapproche de ce qu'on a appelé la presse jaune ou les journaux en sensation. Donc, tout document peut être intéressant. Évidemment, ce qu'on voit souvent dans ce cas-là, c'est des films qui s'intéressent à une sorte de reproduction qu'on connaît bien en fait dans les reportages qu'on peut voir sur le câble sur des chaînes spécialisées, par exemple Canal D, Canal Découverte, on voit ça souvent, on voit ça aussi dans diverses émissions qui sont de qualité plus ou moins bonne, l'idée de faire une reconstitution ou ce qu'on appelle souvent une dramatisation. Maintenant, ce que fait Herzog, qui me semble assez inédit, c'est au lieu de faire une dramatisation, d'aller chercher carrément finalement la documentation audiovisuelle réalisée, qui a été réalisée au moment où les policiers arrivaient sur les lieux du crime. Donc, Herzog reprend, je dirais, dans les 15 premières minutes du film, des images tournées sur une petite caméra vidéo digitale, probablement DV, au début des années 2000, au moment où le crime a eu lieu, et tournée par la police. Et ces images-là, très mal tournées, sont alternées avec des images où Herzog filme la maison, retourne sur les lieux du crime avec un des policiers qui avait mené l'enquête à propos de ce crime, etc. Et Ce qui se dégage, en fait, d'une telle manière de faire, c'est la volonté pour le cinéaste de s'approprier des moyens documentaires assez simples, assez pauvres, pour arriver à une reconstitution qui est diamétralement opposée aux moyens qu'il utilise, c'est-à-dire une démonstration extrêmement forte, extrêmement prégnante, au plus près de la réalité que Herzog essaie de nous faire comprendre, au plus près de cette espèce d'absurdité, d'ambiguïté qui nourrit, si on veut, la violence ou la pulsion meurtrière des criminels qui sont les sujets principaux de son film. Et si on veut, entre autres, juste pour terminer peut-être sur ces images policières, ce qui est frappant, c'est que cette vidéo qui a tournée sur les lieux du crime quelques heures après qu'il ait eu lieu, c'est donc une extrême pauvreté de moyens, un manque élémentaire de soucis dans la construction des plans qui est tout à fait compréhensible, mais qui justement... De même que la légèreté du film, de tout le film Into the Abyss se légitime par la volonté, disons, d'être au plus près des personnages qu'il va rencontrer, que le cinéaste va rencontrer. De même, le document qui est utilisé réussit à nous rendre tout à fait prégnante une réalité qui, si elle avait été bien cadrée, bien faite, nous menait déjà vers une sorte de glacis, vers une sorte de distance bienveillante qui est souvent le mauvais côté ou la perversion propre à la mise en scène cinématographique qui veut tellement cadrer la réalité et la mettre en forme qu'elle en vient à créer son propre monde qui ne communique plus avec le nôtre. Et une des félicités qu'un spectateur peut avoir en voyant Into the Abyss, c'est tout à coup, au-delà de la situation atroce que dépeint le cinéaste, se retrouver en phase avec un monde qui, plus souvent qu'autrement, à travers ses diverses représentations, nous échappe.
Si vous êtes comme moi, vous trouvez que l'univers des médias du divertissement doit se savourer comme un bon vin. Faut apprendre à recracher. Vous avez vu ce qui se fait de mieux? À cette heure, venez voir ce qui reste. Venez développer votre cynisme et votre sens critique en lançant des projectiles sur les pires navets de l'histoire aux projections gratuites de films douteux. Votez pour le film de la semaine sur le site de douteux.org, présenté chaque lundi à la Mine Cassée du Faubourg, au 811 rue Saint-Jean, à Québec. Visitez le www.douteux.org pour plus d'infos.
Là, tu dis c'était gratis.
Douteux.org. Si vous avez des questions, ben nous autres avec.
70 000.
C'est précisément le nombre de personnes qui écoutent CKRL 89.1 dans la grande région de Québec et les environs. Depuis 1973, grâce à vous, CKRL se construit, se bâtit, évolue et grandit. Toujours à l'écoute. Aujourd'hui, la plus vieille radio communautaire en Amérique du Nord, voire même dans le monde, CKRL est toujours là. Grâce aux milliers d'animateurs, de réalisateurs, de collaborateurs qui ont animé ces ondes. Et grâce à vous, auditeurs et auditrices toujours nombreux, toujours à l'écoute. Merci de laisser CKRL 89.1 cultiver vos goûts depuis 1973.
Vous êtes parents de jeunes conducteurs et vous êtes préoccupés par leur sécurité? Assistez à la conférence du Dr Chicoine. Vous apprendrez comment les aider à minimiser les risques et les dangers qui trop souvent sont la cause des accidents de la route chez les jeunes conducteurs. Cette conférence débutera à 19h et aura lieu au Collège François-Xavier Garneau lundi le 3 octobre, au Cégep Limoilou, campus de Charlebourg, mardi le 4 octobre. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
Du 13 au 23 octobre, le Festival Québec en toutes lettres vous fait vivre la littérature. 11 jours d'activités à l'image du mystérieux touche-à-tout et Jean Duchamp. Une présentation de l'Institut canadien de Québec en collaboration avec la Caisse Desjardins du Centre-Ville de Québec, CKRL et la Ville de Québec, partenaire principal de l'événement. Pour vivre la littérature, québecentoutelettres.com.
Au moment où on se parle,
que ce soit sur la scène politique ou sur la scène économique,
dans le monde du sport,
au cœur de la communauté artistique,
ou encore à l'international,
tout autour de nous, les nouvelles font couler beaucoup d'encre.
Le rôle de mon journal?
Faire le tri parmi tout ce battage médiatique pour vous offrir un contenu culturel de qualité et une analyse pertinente de l'actualité.
Pour y voir plus clair, je choisis Le Devoir.
C'est KRL
89.1.
Cultive tes goûts. We'll be right back.
vient de terminer abruptement une pièce, en fait, d'un album qu'on pourrait qualifier d'album conceptuel. Ça se termine abruptement, comme tout album plus ou moins conceptuel, comme on les appelle traditionnellement, ça se termine abruptement parce qu'en principe, la pièce suivante doit s'enchaîner immédiatement dans une idée de continuité ou dans la perspective de créer une sorte d'ensemble musical, un disque qui peut s'écouter d'une traite. Et ce disque, en fait, c'est un film. C'est un disque qui s'appelle My New Picture de Bertrand Bonello, qui aimait à citer lorsqu'il parlait de ce projet Frank Zappa, qui disait à l'époque où il faisait ses premiers disques conceptuels, d'ailleurs, autour de 1965-66, au moment de la sortie de Freak Out, entre autres, ce disque est un film pour vos oreilles. Et c'est un peu ce qu'aimait à répéter Bonello à son avantage en parlant de ce projet. My New Picture, c'est un film, un disque que Bonello a réalisé à un moment où il avait envie d'explorer des contrées cinématographiques qui ne correspondent pas nécessairement aux contrées réelles du cinéma d'exploitation. Et donc il y a une période comme ça d'exploration chez ce cinéaste assez bénéfique, je crois, parce que on le dit pas mal lorsqu'on fait la recension un peu des articles qui ont été rédigés autour du dernier film de Bonello, sorti tout récemment en fait à Cannes, sorti tout juste cette semaine à Paris en salle, présenté il y a 2 semaines à Toronto. Voilà un film qui montre à quel point Bonello a pu prendre une distance, explorer une manière de faire du cinéma qui nous éloigne des idées reçues, et en particulier de la production cinématographique française. My New Picture, c'est une période où peut-être le réalisateur se rêvait non pas musicien, mais un cinéaste qui réussirait à faire des films avec des moyens autres, qui ne sont peut-être pas ceux qu'on s'attend à utiliser lorsqu'on fait un film, par exemple, ne serait-ce qu'une caméra. Donc, au moment de faire My New Picture, Bonello a eu l'idée de présenter ce film, ce disque, dans une salle de cinéma. Je crois qu'il y avait quelques images qui accompagnaient cette représentation, mais principalement, il s'agissait de reproductions sonores qui devenaient un film, puisque présenter, jouer dans un cadre qui correspond à la représentation cinématographique, celui de la salle de cinéma, finalement. Et lorsque Bertrand Bonello a réalisé un film à la suite, qui s'appelle De la guerre, un très beau film, qui n'a pas été acheté ici, donc que vous avez certainement pas vu, que pour ma part, j'aurais très envie de voir en salle bientôt, et ce sera possible, puisqu'il sera présenté au Festival du Nouveau Cinéma dans les prochaines semaines. De la guerre est un film où Bonello essaie de faire le point, justement sur cette volonté qu'il avait de réaliser des films avec d'autres moyens que les moyens qui correspondent à la réalisation d'un film. Donc c'est comme une sorte d'épreuve que je qualifierais un peu bêtement de chamanique, avec une dimension chamanique, il y avait une sorte de traversée que voulait le réalisateur Bonello avec une telle ambition, une traversée au moins si ce n'est spirituel, une traversée symbolique qui pourrait le mener ailleurs et à faire des films qui pourraient le sortir du carcan dans lequel sans doute il se sentait un peu pris, ne serait-ce que dans la mesure où maintenant, je pense qu'il serait assez d'accord avec ça, lorsqu'un cinéaste commence à faire des films, il est rapidement catalogué. Et il n'y a rien de plus adorable, je dirais, dans la production contemporaine que voir un cinéaste s'amuser à se promener d'un genre à l'autre, d'un continent à l'autre, d'une manière de filmer à l'autre. Aussi bien on a pu mettre en valeur, je pense, dans le discours critique depuis les années 60, le sillon creusé par les cinéastes pour mieux marquer leur vision du monde de film en film, autant aujourd'hui cette vision du monde-là est un peu mise à l'épreuve par l'ensemble des images qui nous entourent et l'ensemble des possibilités avec lesquelles on peut faire des films. Et cet ensemble-là qui semble plus ou moins adaptable, plus ou moins présentable dans le cadre d'une représentation cinématographique dans une salle de cinéma, appelle à se poser des questions et appelle à recomposer, si on veut, la manière que le spectateur et le critique peuvent avoir pour penser le style, peuvent avoir en tête pour penser le style, pour considérer qu'ils font face à un cinéaste qui a un style, qui a une vision singulière. Et lorsque le film de Bonello, De la guerre, est sorti, je ne sais pas jusqu'à quel point il a été compris, mais c'est clair que une des volontés qui se cachait derrière ce film était pour le cinéaste d'utiliser un acteur, Mathieu Amalric, en faire son alter ego et lui faire traverser une sorte d'épreuve symbolique, peut-être chamanique. C'est pas nécessairement une épreuve d'acteur là, au sens où Herzog mettait à l'épreuve Klaus Kinski. Mathieu Amalric est un acteur physique, certes. C'est un acteur qui est aussi un peu l'incarnation d'une certaine génération du cinéma français, de réalisateurs qui ont peut-être aujourd'hui 40-50 ans. Donc, plus ou moins, la génération de Bonello et la génération de Desplechin aussi en amont. Donc, Mathieu Amalric n'a pas nécessairement une épreuve physique à traverser en tant qu'alter ego de ces cinéastes urbains, disons, c'est pas une épreuve physique au sens le plus délirant du terme, comme Klaus Kinski qui tire un bateau à la rive et dans un film de Werner Herzog qui s'appelle Copra Verde, puis quelques mois plus tard, il va mourir d'épuisement et on suppose qu'il y a un rapport de cause à effet. Donc, on n'est quand même pas là-dedans. Il s'agit plutôt de mener l'acteur jusqu'à un point d'épuisement de sa propre stature, de sa propre incarnation à titre d'effigie cinéphilique. Et au moment où sort De la guerre, c'est un moment où justement Mathieu Amalric fait exploser ce carcan dans lequel il est cantonné depuis longtemps. Et cet acteur qu'on a vu à peu près depuis ce moment-là proliférer un peu partout dans des productions diverses en était à être nourri d'une volonté de destruction de sa propre image. Et on peut dire qu'à ce titre, tout à coup, la place qu'occupait le cinéaste dans le jeu de l'acteur, c'est-à-dire ce rôle que le cinéaste assignait à l'acteur, celui de l'alter ego, avait un sens particulier, un sens profond qui consistait ni plus ni moins pour le cinéaste comme pour l'acteur à essayer de détruire une manière de faire, une manière de fonctionner. Et toute une partie du film qui est un peu en dehors du monde, dans De la guerre, où Mathieu Amalric est enfermé, plus ou moins enfermé, il y a toujours des histoires d'enfermement dans les films de Bonello, dans un château, pendant un certain temps. Ce château étant, d'une certaine manière, un monde en soi, en tout cas un monde parallèle, qui sans doute dialogue avec le nôtre, mais aussi nous reste un peu opaque à nous, spectateurs. Donc un monde avec ses rituels, avec ses manières de faire, et surtout avec une ambiance un peu de secte, dirigée dans le film par l'actrice Asia Argento. Donc une ambiance un peu de secte où principalement les personnages qui peuplent cette secte, et en premier lieu Mathieu Amalric, doivent passer une épreuve qui est difficile à exprimer, difficile à définir, difficile à comprendre, mais qu'on peut ressentir comme spectateur et que l'acteur peut ressentir, c'est-à-dire faire face à des transformations, faire face à son devenir, c'est-à-dire accepter d'une certaine manière que les chemins que la vie nous donne ne sont pas les chemins tout balisés du monde du cinéma contemporain. Et cette épreuve-là, si on s'en tient au film, évidemment qui ne pose pas la question de la place de l'acteur dans le cinéma contemporain de manière directe, mais on est plutôt dans le registre, si on veut, de l'allégorie. Dans ce film-là, ça consistera à essayer de retourner à un mode de vie qui serait celui du guerrier. Le guerrier peut-être au sens quasi-médiéval, qui fonctionne bien avec l'idée de la secte. Ce rôle-là du guerrier, ben il est d'une certaine façon l'occasion de voir comment aujourd'hui le cinéma et la manière de créer peut se transformer de manière à se rapprocher, de façon aussi à se rapprocher au plus près de la vie et à toutes les inconnues qui composent la vie de tous un chacun et qu'on essaie de baliser, d'enfermer aussi dans le quotidien afin de se faire croire que il n'y a qu'un seul courant et un long fleuve tranquille.
Moi, je ne fais pas les films que je veux faire, je fais les films que je peux faire. Ça ne veut pas dire que je me contente de peu, j'arrête pas de travailler, j'essaie de me dépasser. Et au bout du compte, ce que je vois, c'est ce qui m'apparaît, c'est la somme de mes possibilités, de mes impossibilités. Ça, c'est toujours en accord avec mes désirs. Et je crois que pour la musique, c'est pareil.
On vient allez entendre un autre extrait de My New Picture de Bertrand Bonello, qui est donc un film pour vos oreilles, si on veut. Et si vous avez été un peu attentif, vous avez pu peut-être entendre à la fin la voix de quelqu'un, qui est en fait la voix de Bertrand Bonello, qui dit « Je ne fais pas les films que je veux faire, je fais les films que je peux faire ». Et on peut dire que la question du possible, de ce qui est possible de faire, les possibles, la possibilité d'être, est diverse. Et la question de ce qui est possible est différente de la volonté dans la mesure où il ne s'agit pas nécessairement dans le cadre de la création, si on s'en tient à simplement ce qui est possible de faire, si le créateur admet qu'il ne peut s'en tenir qu'à ce qu'il est possible qu'il puisse faire, ben, on arrive à un point où finalement ce qui compte, c'est la capacité qu'on trouve en soi, les ressources que l'on trouve en soi pour se transformer, pour être autre chose qu'une simple volonté de montrer à l'écran des idées toutes faites comme si elles n'avaient qu'à être transposées pour être vues par un certain nombre de spectateurs. Alors, tout à coup, il y a une fusion qui se fait entre créateur et création lorsqu'il s'en tient à cette recherche de soi, à cette épopée, à la découverte de soi que peut être aussi la création. Un chemin vers l'inconnu qui est aussi le chemin des possibles. C'est un peu le plan de match, si on veut, d'un créateur qui a un peu de vision et un peu de sens du réalisme, même si, de la manière dont je l'énonce, ça peut avoir un aspect ésotérique, ça ne l'est pas. Et quoique j'aurais eu le goût de vous parler de la Polonide de Bertrand Bonello, je le ferai assez peu, finalement, puisque le temps file. Mais la Polonide, c'est précisément, si on s'en tient juste au travail de création du cinéaste, à un moment, le cinéaste, je dirais pas se transforme au sens où on le reconnaît plus, mais retravaille des termes et trouve sa forme. Trouver sa forme, ben, on en revient un peu à la phrase, la fameuse phrase de Picasso, moi, je cherche pas, je trouve. Ben, c'est peut-être quelque chose qu'on peut faire résonner avec l'idée d'être plutôt un artiste qui va vers ce qui est possible de faire plutôt que tenter de s'en tenir à sa volonté. Et la Polonide, c'est un moment où encore une fois, il y a de l'enfermement, encore une fois, des personnages se retrouvent dans une situation qui semble les couper du réel, de la vie courante, en dehors des lieux où ils se trouvent. Mais c'est aussi l'occasion de recréer un monde, cette fois-ci, qui a des limites et une forme très précise. Et c'est peut-être ce qui distingue le film des autres films de Bonello, puis en même temps montre à quel point il en est arrivé à un niveau d'achèvement dans sa démarche. C'est-à-dire que maintenant, il a réussi, d'une certaine façon, à trouver une sorte de rythme, comme une basse interne, qui lui permet d'être à la fois dans son film, tout à fait en phase avec sa conscience d'artiste, et tout à fait dans un monde qu'il a réussi à créer de toutes pièces, et ce monde-là, ben, il semble vivre de lui-même. Et le cinéaste, tout à coup, est l'observateur du monde qu'il a créé. Alors c'est un moment assez magnifique que celui de la Polonide, où tout à coup, le spectateur et le créateur se retrouvent un peu en phase, si en tant que spectateur, on est moindrement disponible, pour contempler le point de vue d'un cinéaste sur un monde qui est aussi son œuvre. Donc il y a un effet d'aller-retour comme ça entre la création, la vision du monde et le monde que l'on parvient à créer. Quelque chose de l'ordre de l'acte créateur qui est aussi un témoignage d'un grand directeur d'acteurs, puisqu'il s'agit d'une troupe d'actrices dans un bordel dont l'une d'entre elles sera défigurée. C'est un des moments forts du film. Et cette défiguration-là, d'une certaine façon, c'est aussi, on peut le dire, la marque négative d'un créateur qui a su montrer à ses actrices comment le monde qu'il est en train de créer ne peut exister sans elles et qu'elles allaient peut-être en perdre aussi une part d'elles-mêmes. Rien ne se crée sans que d'autres choses se perdent. Alors voilà, c'est tout ce que je pourrais dire sur ce film à ce propos-là, donc de manière assez abstraite et théorique, mais quand même j'espère en vous donnant le goût de le voir. Pour l'instant, il est acheté, je sais que le film est acheté en Amérique du Nord par le distributeur américain qui a ses antennes au Canada, donc on suppose qu'il circulera très très prochainement. Mais pour l'instant, il est présenté au Festival du Nouveau Cinéma de Montréal qui débute dans un petit peu moins de 2 semaines. Donc, je dirais, l'émission tire déjà à sa fin. Alors, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre rendez-vous, discussion, lucubration autour du cinéma contemporain. À bientôt.